Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, cet appel sur l'actualité, ravi de vous accompagner, c'est votre émission, vous posez vos questions, vous réagissez à l'actualité. Dans une demi-heure, notre débat du jour après les pluies diluviennes qui ont frappé le Niger, le bilan humain et matériel est lourd, plus de 20 morts, 50 000 sinistrés, des milliers d'habitations détruites et de têtes de bétail disparues. C'est la dernière illustration en date des catastrophes climatiques qui frappent la sous-région. Le Nigeria aussi est fortement touché. On se rappelle des inondations à Kinshasa en janvier, à Abidjan en juin dernier, des plus de 1000 morts en Sierra Leone il y a tout juste un an. Alors comment expliquez-vous la recrudescence de ces catastrophes? Que pensez-vous de la gestion des pouvoirs publics et du comportement de vos concitoyens? Vous nous racontez ce que vous vivez, on attend vos témoignages. Notre téléphone 33 9 693 693 70. Mais d'abord, comme chaque matin, l'équipe d'appel tâche de répondre aux questions que vous vous posez sur l'actualité. Et on débute avec Zico qui est en ligne de Lubumbashi. Bonjour.
Oui, bonjour François, bonjour à des millions d'éditeurs de la RFI.
Et vous avez des questions, Zico, à la suite du rejet de la légalisation de l'avortement en Argentine.
Tout à fait, François. En Argentine, le Sénat a rejeté le projet de loi qui visait à légaliser l'avortement. Mais bien avant, la Chambre des députés, comme on le sait, avait voté pour la loi légalisant l'avortement. Alors, comment expliquer la contradiction de vote des parlementaires argentins? Et comment se fait-il que la décision des sénateurs puisse étonnamment donc s'y planter celle des députés?
Et pour répondre à vos questions, Romain Le Maresquier est avec nous. Bonjour Romain.
Bonjour, bonjour à tous.
Reporter au service international de RFI, vous suivez en particulier l'actualité des Amériques. Alors on va commencer par le premier point. Comment peut-on expliquer, Romain, cette opposition entre les deux chambres du Parlement argentin?
Alors tout d'abord, je crois qu'il est bon de rappeler qu'il s'agit de deux chambres différentes et qui n'ont pas forcément le même équilibre politique. Et même si c'était le cas, à l'image de la différence qui existe en France entre l'Assemblée nationale et le Sénat argentin est traditionnellement plus conservateur que la Chambre des députés, comme en France. Par ailleurs, la moyenne d'âge est plus élevée au Sénat qu'à la Chambre des députés. Là aussi, c'est une chose que l'on retrouve en France. Or, sur ce type de sujet de société, cette différence d'âge peut avoir son importance et cela a été le cas lors du vote du projet de loi légalisant l'avortement. Ensuite, pour revenir au vote le 14 juin dernier des députés argentins, la veille du vote, le camp du non était encore majoritaire. Un inversement de tendance s'est produit dans les dernières heures qui est certainement dû à la mobilisation des pro-avortements. Un inversement qui ne s'est pas produit dans les dernières heures qui ont précédé le vote des sénateurs. Il faut préciser que la mobilisation avait un peu faibli et que la pression du camp anti-avortement avait quant à elle méchamment augmenté.
Alors pourquoi le vote du Sénat prime sur celui des députés?
Alors comme dans de très nombreux pays, un projet de loi doit obtenir un vote favorable dans les deux chambres avant d'être publié au journal officiel. Pour ce projet de légalisation de l'avortement, pour que ce projet aboutisse, il fallait donc qu'il obtienne l'aval des deux chambres. Or ce n'est pas le cas, donc il n'a pas été validé et un nouveau projet de loi devra être présenté à l'avenir.
Zico, vous êtes en ligne de Lubumbashi, vous avez une autre question pour nous.
Oui, tout à fait François. Alors, pour la suite, y a-t-il donc un recours? On voit le militant, y a-t-il un recours pour le militant pour avortement ou car même projet de loi pouvait-il à nouveau être déposé au cours de cette même année?
Alors Romain Le Maresquier, le combat des militants pro-IVG évidemment continue, mais quelle voie peut-il prendre?
Eh bien, tout simplement, il n'y a aucun recours possible pour le camp des pro-avortements suite à ce rejet de projet de loi. Ils vont tout simplement devoir attendre la prochaine législature, c'est-à-dire les prochaines élections, pour qu'un nouveau projet de loi soit déposé, étudié puis voté. Ce qui veut dire que les Argentins vont devoir attendre 2020 pour que cette question revienne à l'ordre du jour. D'ici là, le gouvernement, qui a bien compris qu'il existait une véritable attente, bien qu'il ne soit pas ouvertement en faveur d'une légalisation de l'avortement, eh bien ce gouvernement compte inclure un volet concernant l'avortement dans la réforme du code pénal qu'il doit présenter la semaine prochaine. Il ne s'agira pas a priori d'une dépénalisation de l'avortement, comme beaucoup d'Argentins l'espéraient, mais d'une révision des motifs qui pourraient conduire à une condamnation en cas d'avortement. Le gouvernement souhaite revoir les peines à la baisse et également retirer certains motifs qui jusqu'à présent peuvent conduire à une condamnation. Une chose est sûre par contre, après tout ce qui s'est passé ces derniers mois et tout ce qui a été écrit, on sent que la société argentine est prête pour une telle réforme. Il faut préciser une chose, il y a encore quelques années, il était inimaginable, impensable qu'un tel projet de loi soit présenté. Pour la première fois, les Argentins ont débattu sur cette question et le prochain projet de loi qui sera présenté, s'il est bien ficelé, eh bien il aura de très grandes chances de passer. C'est en tout cas ce qu'estiment de très nombreux analystes politiques argentins.
Oui, on rappelle que malgré la pénalisation, il y a entre 370 000 et 520 000 avortements clandestins chaque année en Argentine, selon le ministère de la Santé. Alors Romain, l'avortement n'est légal que dans bien peu de pays en Amérique latine pour l'instant.
Oui, à l'heure actuelle, seuls deux pays ont légalisé l'avortement, Cuba et l'Uruguay. L'état de la ville de Mexico, au Mexique, l'a également légalisé, mais au niveau fédéral, l'avortement reste un crime au Mexique. Mais cela pourrait rapidement évoluer, hein, puisque le nouveau président Andrés Manuel López Obrador, qui prendra ses fonctions en fin d'année, compte bien présenter un projet de légalisation de l'avortement. D'autres pays sont en train également d'étudier petit à petit cette question. C'est le cas notamment du Brésil. La Cour suprême a par exemple organisé un débat vendredi dernier, ce lundi, sur ce sujet. Dernière petite précision qui a son importance, hein, concernant cette question de l'avortement pour ce qui est de l'Amérique du Sud. Il ne faut pas oublier que l'Église conserve un poids considérable. Elle représente un véritable frein dans la volonté de réforme de certains pays, comme cela a été le cas ces dernières semaines en Argentine.
Merci Romain Lemaresquier d'avoir été avec nous et merci à Zico, auditeur fidèle de RFI sur 98 FM à Lubumbashi. Direction Banjul maintenant, où nous attend Lamine. Bonjour.
Bonjour François et bonjour à tous les auditeurs de la grande radio.
Merci Lamine. Banjul, c'est bien sûr la capitale de la Gambie. Et vous souhaitez des précisions sur l'Hyperloop, ce train supersonique imaginé par le patron de Tesla, Elon Musk, et développé par plusieurs entreprises, dont l'une va s'installer dans un petit village français. Allez-y Lamine, quelle est votre première question ?
Bon, ayant appris sur RFI qu'un start-up canadien a choisi un petit village français pour tester un train supersonique pouvant rouler jusqu'à 1000 km/h, je voudrais savoir comment va fonctionner ce train pour aller si vite. Pourquoi le choix de ce petit village français par les Canadiens et qui va financer ce projet?
Alors, on va commencer par votre première question, Lamine, à laquelle va répondre Anna Piekarek du Service France. Bonjour.
Bonjour.
Alors, ce train théoriquement capable de dépasser les 1000 km/h, comment va-t-il fonctionner?
Un train qui pourrait filer à une vitesse proche de celle du son semble sortir directement d'un roman de science-fiction. Mais vous savez, Lamine, pour ceux qui croient en lui, ça ne devrait pas être trop compliqué. En fait, Hyperloop reprend à grande échelle le principe d'envoi de courrier par tube pneumatique. Elon Musk, qui veut révolutionner nos transports, y a ajouté des technologies du 21e siècle. Dans son projet, il y a aussi des tubes et des objets. Les tubes sont géants et à très basse pression, voire vidés de leur air. Ce qui permet aux objets, ici ce sont des capsules pour passagers, des avions sans ailes en quelque sorte, de circuler dedans sans frottement ni résistance de l'air.
Alors comment fera-t-on pour faire naviguer ces capsules à l'intérieur des tubes ?
Elles vont être propulsées par un champ électromagnétique créé par des moteurs à induction. Elles ne vont donc pas rouler, mais plutôt léviter au-dessus de la piste. Tout ce système devrait permettre à Hyperloop d'atteindre la vitesse d'un avion de ligne.
Et quels seraient les avantages, Anna, de ce train du futur ? Et
le principal avantage, bien sûr, ce serait la vitesse. Si Hyperloop faisait son entrée en France, il ne lui faudrait que 45 minutes pour relier Paris à Marseille. Ce train polluerait aussi moins que l'avion et serait moins cher à construire qu'un TGV traditionnel.
Alors vous avez entendu Lamine, il avait une autre question à poser sur le choix de ce petit village français par les Canadiens. Drou, c'est moins de 400 habitants, c'est complètement dans la campagne, alors pourquoi là ?
À l'origine de cette rencontre franco-canadienne, il y a un collectif d'entrepreneurs et d'élus du Limousin, passionnés de nouvelles technologies et amoureux de leur territoire. Dès que Vincent Léoni, maire adjoint de Limoges, et ses amis ont entendu parler d'Hyperloop, ils se sont lancés le défi de le faire venir en Haute-Vienne. Ils ont contacté plusieurs entreprises et c'est Transpod, dirigé par un ingénieur français, Sébastien Gendron, qui leur a répondu. C'est aussi eux qui ont trouvé à Drou, un village de 360 habitants, l'endroit idéal pour implanter la rampe d'essai d'Hyperloop. Un terrain en ligne droite de 3 km le long d'une ancienne voie ferrée. Et si tous les feux verts sont obtenus, les travaux commenceront début 2019 et les premiers tests auront lieu 10 mois plus tard.
Lamine, qui était à Banjoul, a posé tout à l'heure une troisième question, celle du financement. Qui finance ce projet, Anna Piekarek?
Donc, le financement est à 100% privé. Près de 50 millions de dollars ont été levés auprès des investisseurs nord-américains et européens. 21 millions de dollars seront investis directement pour la construction du site à Drou. La seule chose qui est publique, c'est le terrain. Il appartient au conseil départemental de Haute-Vienne, qui va donc le louer aux Canadiens pour 1 euro symbolique.
Et quand est-ce que Transpod espère ouvrir une première ligne commerciale?
Probablement autour de 2030. La jeune pousse de Toronto n'est pas la seule à être dans la course. Parmi les projets les plus avancés, il y a celui de la société spatiale américaine Hyperloop One, qui a déjà réalisé un premier test grandeur nature dans le désert de Nevada. Sur une piste de 500 mètres, son prototype de capsule a atteint 387 km à l'heure. Un autre projet intéressant est celui de Hyperloop TT. Cette entreprise californienne, comme Transpod, a choisi la France pour installer son centre de recherche. Il se trouve à Toulouse, où l'assemblage des tubes a déjà commencé.
Alors nous avons parlé, Anna, des avantages de ce train du futur. Est-ce qu'ils auraient des inconvénients aussi?
Et que oui, il nécessiterait d'abord des infrastructures similaires à celles des systèmes ferroviaires. Il faudrait donc créer des réseaux dédiés. Ensuite, pour atteindre la vitesse souhaitée, il faudrait qu'il aille tout droit. Or, à part dans le désert, il n'y a pas beaucoup d'endroits sur Terre où cela pourrait être possible sans grands travaux d'aménagement préalables. Au final, selon de nombreux experts, Hyperloop devra probablement réviser ses ambitions à la baisse. S'il veut garder son avantage de rapidité, il ne pourra s'implanter que dans des zones faiblement urbanisées et sur des terrains plutôt plats.
Merci Anna Piekarek pour toutes ces précisions. Lamine, vous qui nous avez écouté à Banjoul, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez appris?
Entièrement satisfait. Merci beaucoup.
Eh bien, merci à vous, Lamine, de votre fidélité à la Radio du Monde. Bonne journée à vous, à l'écoute de RFI à Banjoul, la capitale de la Gambie. On termine cette première partie, non loin de là, dans le nord-est du Sénégal, avec Moussa. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous écoutez à Saint-Tiou-Bamambé, alors j'espère déjà que je prononce bien. C'est près du fleuve Sénégal, à la frontière avec la Mauritanie. Et vous avez des questions sur le crash de la monnaie turque?
Effectivement. Bonjour François, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale. La Turquie connaît une grave crise monétaire et financière. Comment expliquez-vous la chute de la devise turque?
Alors on va commencer avec votre première question, Moussa, on reviendra vers vous pour la suite. Pour répondre, Jean-Marc Hou est en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sciences Po Grenoble, spécialiste de la Turquie. La livre turque a perdu presque la moitié de sa valeur depuis le début de l'année, alors comment est-ce qu'on peut l'expliquer?
Ben, je pense qu'il y a deux raisons majeures. D'une part, il y a une faiblesse de la livre turque depuis plusieurs mois même. Bon, c'est une faiblesse depuis plusieurs années, puisqu'il y a une baisse de la monnaie constante au cours des 3 dernières années. En revanche, il y a une aggravation ces derniers jours de cette crise, avec littéralement une chute libre de la livre turque au début de la semaine, qui tient au contexte particulier des relations turco-américaines, qui se sont aggravées en raison de l'emprisonnement d'un pasteur qui est accusé d'avoir des relations avec la confrérie Gulen, le pasteur Brunson. Et Donald Trump s'est mobilisé il y a quelques jours sur cette question. Enfin, il avait déjà fait des remarques, les États-Unis avaient déjà fait des remarques, mais Donald Trump en a fait littéralement un symbole.
Cette passe d'armes, Jean-Marc Hou, elle n'a fait qu'amplifier certaines faiblesses structurelles de l'économie et de la monnaie turque?
Elle a effectivement amplifié certaines faiblesses de la monnaie turque. Bon, pourquoi? Parce que effectivement, les entreprises turques sont endettées en dollars, que la Turquie importe beaucoup d'énergie aussi, le plus souvent en dollars, Et donc tout ça a justement fragilisé la monnaie, fragilisé les investissements. Donc je dirais qu'il y a une double raison, il y a à la fois ces faiblesses, qui sont d'ailleurs des faiblesses contrastées de l'économie turque, parce qu'en même temps, l'économie turque continue à afficher une croissance importante, mais il y a un certain nombre de faiblesses, en particulier l'inflation, et justement cette faiblesse de la monnaie qui est constante, comme je le disais, depuis plusieurs années. Et donc je crois que le contexte diplomatique turco-américain a amplifié des facteurs qui s'étaient néanmoins déjà affirmés au cours des derniers mois.
Oui, justement Moussa, vous aviez une question hein, sur cette tension diplomatique.
Effectivement, pourquoi Recep Tayyip Erdogan, le président turc, accuse Donald Trump d'être le principal responsable?
Oui, c'est vrai.
Même que son ami, oui.
Alors, je vais reformuler votre question pour Jean-Marc Roux, pour qu'il puisse bien l'entendre. C'est vrai, hein, Jean-Marc Roux, qu'on a assisté à une passe d'armes assez violente entre le président turc, qui crie au complot venu de l'étranger, et les États-Unis. Quel rôle précisément tiennent les Américains? Et est-ce que Recep Erdogan a raison de s'en prendre aux États-Unis?
Alors ça, est-ce qu'il a raison? C'est une question d'appréciation hein, sur laquelle je ne m'en prononcerai pas. Mais effectivement, je crois que c'est une manière effectivement de se défendre et de justifier certaines fragilités de l'économie turque, même si je crois que la querelle à l'heure actuelle avec Donald Trump, parce que on est dans une tension diplomatique qui est devenue de plus en plus un bras de fer entre deux hommes dont on connaît justement le caractère obstiné et têtu. Et donc c'est probablement ce qui explique l'accélération et l'escalade, le degré d'escalade de cette crise pour finalement cette affaire de Pasteur. Je crois que effectivement les deux hommes ont tenté d'utiliser un petit peu politiquement, d'instrumentaliser politiquement cette situation, parce que Donald Trump, finalement, mobilise les évangélistes derrière lui. Il a, et on sait à l'heure actuelle qu'il est à la recherche de soutien pour les prochaines élections. Et d'un autre côté, Recep Tayyip Erdogan, finalement, a utilisé un petit peu cette crise pour justement à l'heure actuelle, ce qui est assez impressionnant, hein, c'est qu'on n'est pas en campagne électorale, alors il n'arrête pas d'être en meeting, et dans ces meetings, il explique qu'effectivement, il y a une attaque de l'extérieur, de l'économie turque, que l'économie turque n'a pas de faiblesse, mais que en réalité, c'est une crise qui vient de spéculateurs qui sont manipulés par l'étranger. Mmh. Donc je crois que des deux côtés, la crise est instrumentalisée, du côté de la Turquie, mais également d'ailleurs du côté des États-Unis, parce qu'il faut bien voir que cette affaire vient de cet emprisonnement de ce pasteur et que Donald Trump mobilise hein, les évangélistes derrière lui sur cette question.
Alors Moussa avait une dernière question, rapidement je vais m'en faire l'avocat. Que peut faire le gouvernement turc pour contrer cette chute de sa monnaie?
Ben, il y a déjà eu, je crois qu'il y a une chose aussi qui a fragilisé la monnaie, c'est le changement de régime en Turquie. Vous savez que les dernières élections anticipées ont consacré un changement de régime et surtout ont consacré une plus forte emprise du président sur toutes les institutions et en particulier les institutions économiques et monétaires, notamment la Banque centrale de Turquie. Et ça aussi, ça gêne beaucoup les investisseurs, les observateurs internationaux. Donc,
d'autant plus que le gendre de M. Erdogan est au ministère de l'économie et des finances.
Voilà, d'autant plus que le gendre de M. Erdogan est à la tête du ministère de l'économie et des finances et que c'est lui qui se positionne en grand ordonnateur des réformes à venir de l'économie turque. Donc tout ça inquiète d'ailleurs hier pour rassurer le gendre de M. Erdogan, expliquer que la Turquie restait une économie de marché. Donc indiscutablement, ce caractère d'économie de marché, cette faible emprise politique, une emprise plus faible du politique sur les instances économiques.
Ça inquiète les investisseurs. Merci Jean-Marcoux d'avoir été avec nous.